Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel, fondateur de Agile Training. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des sportifs dans la réussite de leur projet d'endurance, de l'athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques, au sportif débutant qui veut réussir son premier 10 km. Ce podcast est dédié à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce vaste et passionnant sujet, en 30 minutes environ, le temps d'un petit footing ou d'un trajet au boulot. Pas de prise de tête ou de choses compliquées, l'objectif est de rendre l'information accessible à tous. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute et à le partager. C'est important et cela incite à continuer. Suivez également mon travail sur ma page Instagram agile.training et mon site internet agile-training.club. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sonia Poutrel. Alors Sonia, je te laisse te présenter un petit peu qui tu es, ton parcours, ta pratique.
Oui, bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Sonia Poutrel, j'ai 32 ans et je suis originaire de Cherbourg, donc c'est en Normandie. Je suis architecte de formation, donc j'ai fait mes études à Paris et à Rouen. Et en fait, en 2020, avec mon compagnon Mehdi, on a déménagé à la montagne, en Haute-Savoie, donc près d'Annecy, par soif d'aventure et de travail aussi. Donc voilà. Après, quand on dézoome un peu, par rapport au sport, petite, en fait, j'ai surtout fait de la danse contemporaine et du badminton. Et puis, donc j'ai commencé à courir un peu sur du bitume il y a à peu près 10 ans. Avec donc Mehdi, dans l'idée initiale en fait de perdre du poids. Et en fait, les premiers mètres ont été plutôt compliqués. Et puis petit à petit, on découvre que c'est pas si mal. Et puis voilà, je suis arrivée petit à petit voilà à faire 10 km. Au tout début, moi, j'étais pas du tout régulière. Voilà, pendant on va dire de 2010 à 2015, on va dire, j'allais courir peut-être une fois tous les 2-3 mois. Et puis en fait, c'est surtout en 2016 où j'ai vraiment commencé la course, mais surtout le trail que j'ai découvert. Et en fait, courir sur des sentiers, ça m'a tout de suite plu. J'ai trouvé plus d'intérêt que d'aller manger du bitume, voilà. Et donc j'ai découvert les courses, les trails avec, enfin, chronométrés. Et en fait, j'ai bien aimé ce côté un peu compétition, à la fois convivialité et compétition regroupées dans un même endroit, ça m'a plutôt plu. Et donc en fait, ça a commencé en suivant un ami qui faisait l'Infernal Trail 200, donc dans les Vosges, et qui nous a demandé si on voulait venir le voir. Donc nous, on connaissait rien à tout ça, au ravitaillement, tout ça, comment ça se passait. Et puis, petit à petit, voilà, on a découvert tout cet environnement-là. Et donc je me suis dit, ouais, un jour, je veux faire ça aussi, quoi. Donc c'est vraiment parti de là. Et en fait, donc en 2018, donc il y a 5 ans de ça, j'ai fait mon premier ultra. Donc c'était un 105 km en Alsace, et qui s'est en fait plutôt bien passé, sans prise de tête. J'ai fini deuxième contre toute attente. Et je trouvais que voilà, pour quelqu'un qui allait pas vite comme moi, je m'en étais plutôt pas mal sortie. Donc ça m'a motivée, j'ai continué à m'entraîner toute seule, enfin toujours avec Mehdi. Et puis jusqu'en 2021 où j'ai décidé donc de prendre un coach, enfin pour me faire accompagner. Et entre-temps, donc j'avais enfin voilà entre 2018 2020, j'avais refait un deuxième 100 km. Où pareil, j'avais fait un podium, et puis j'avais pareil, j'avais refait une autre course qui s'était plutôt bien passée. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de continuer à progresser, et puis surtout essayer de performer un peu plus, quoi. Donc voilà, donc ces 2 dernières années, donc il y a eu forcément confinement, tout ça. Et puis voilà, 2021, donc j'ai fait l'Infernal Trail, justement le 200 bornes des Vosges que j'avais découvert quelques années auparavant. Et puis là, pareil, du coup, j'ai terminé première. Et puis par contre, l'an dernier, j'ai fait une aventure qui était un peu plus en off, où j'ai donc effectué la traversée du GR 223, qui est un sentier de grande randonnée en Normandie, où en fait, donc voilà, on part, ça part d'Honfleur jusqu'au Mont Saint-Michel. Et puis, bah voilà, tout se fait à travers le littoral normand. Donc, c'était une bonne balade de 600 bornes. Et donc, voilà, comme ça a été donc l'occasion de, bah voilà, à la fois de soulever des fonds du coup, pour un centre hospitalier.
Oui.
Et puis aussi bah, de réaliser un FKT donc sur ce GR. Voilà dans les grandes lignes.
Alors, dans les grandes lignes, si je résume très rapidement ton parcours, tu es passé de galérer à ton premier footing, à courir une ou deux ou trois fois par semaine de manière épisodique, à terminer un 100 bornes, puis un 200 bornes, avec un 200 sur le dos et à terminer devant, et ensuite à te faire une bonne session de grande randonnée. 600 km, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de randonnées. Donc, si je résume, c'est un petit peu ça. Et on y reviendra justement sur les dons que tu as récoltés pour les enfants malades, parce que, en fait, tu es asthmatique de naissance. Ou en tout
Oui,
cas,
c'est vrai que
depuis
j'ai
que tu es
pas
toute.
précisé, ouais.
Ouais. Et je te reçois aussi pour ça. Alors, pour le parcours que tu as sportivement, on va dire, l'évolution que tu as. Et aussi par rapport à l'asthme, et on va y venir. Alors moi, je suis sensible à ça parce que j'étais du asthmatique allergique, hein, pas forcément à l'effort depuis tout petit. Ce qui fait que je pense que toi comme moi, on n'a pas des capacités pulmonaires maximales, c'est comme ça. Pour info, moi, l'allergologue avait dit à mes parents que je ne passerais pas mes 20 ans quand j'étais gamin. Donc,
D'accord.
a priori, selon le premier allergologue, il fallait que je reste dans une cloche et surtout que je fasse plus rien parce qu'il fallait... Il ne fallait pas prendre le moindre risque. Et le deuxième avis de l'allergologue a plutôt été qu'il fallait que je fasse du sport, alors notamment du ski de fond, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à gérer l'hyperventilation. Parce que l'asthme, t'en parleras, c'est plutôt toi qui vas parler, hein, moi c'est la parenthèse, mais quand on est gamin et qu'on fait une crise, on panique. Et plus on panique, plus ça s'amplifie. Et
C'est
bref,
ça.
tout ça pour dire que même si on n'a pas les mêmes armes, entre guillemets, que les autres dès le début avec les poumons, il y a quand même toujours moyen de faire, il y a moyen de bien faire, et il suffit juste de se prendre en main, même si c'est facile à dire. Hein, mais on reviendra un petit peu dessus sur la parenthèse, justement. Enfin, c'est moi qui ai fait la parenthèse sur la suite, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ta définition de l'endurance, pardon, en quelques mots, ça serait quoi?
C'est vrai que ouais, j'ai vu cette question-là et en fait tout de suite je me dis que c'était un mot qui entrait clairement en résonance avec le mot patience pour ma part en tout cas. Enfin, je trouve que c'est un peu la capacité qu'on demande à notre corps à tenir dans le temps et que ce soit en fait d'un point de vue physique mais surtout mental. C'est vraiment les deux qui sont, enfin les deux vont de pair. Et moi enfin, quand je le pratique c'est vraiment en mode doucement mais sûrement à tout point de vue. Et en fait, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que autour de nous, en fait, il existe autant de enfin, il existe différents types de profils de coureurs. Et en fait, enfin, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Il y avait vraiment différents niveaux. Et en ultra, en tout cas, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de profil type, de profil idéal, etc. Et par exemple, enfin, personnellement, un de mes objectifs, c'est d'augmenter ma capacité à être endurante à une vitesse qui au fur et à mesure serait plus élevé et bah, sur davantage de kilomètres en fait et c'est aussi demander enfin apprendre mentalement aussi être capable d'absorber une certaine charge que l'on fait vivre que parfois on peut se dire qu'on impose à notre corps mais de voilà qu'on fait vivre au quotidien de travailler justement ces éléments-là donc voilà.
Cette notion de patience, j'ai reçu Thomas Laure-Blanchet
Ouais.
qui justement disait, alors lui, il définissait pas l'endurance par la patience, mais il définissait la plus grosse erreur des gens était de ne pas être assez patient. Donc, on reconnaît la déformation des coureurs et des coureuses d'ultra. Pas la
Ouais.
déformation, c'est pas une déformation, mais en tout
Oui,
cas
oui,
la
je pense que
perception.
ouais, c'est un élément. Enfin, c'est comme ça que je le vois encore une fois, mais je pense que c'est vraiment un élément clé parce que on peut être très endurant physiquement et être très rapide, mais c'est pas pour autant qu'on arrivera forcément au bout des 300 km si à un moment on commence à trouver le temps long en fait. Voilà.
Ouais. Et aussi à l'entraînement aussi, parce qu'il faut s'entraîner pour arriver à terminer les 300 km a priori.
C'est ça, ouais.
Mais
Ouais, c'est aussi de la motivation à avoir.
même si on commence à avoir des pubs sur Instagram de préparer les ultras avec trois footings, je me demande comment ça peut fonctionner, mais peu importe pour la parenthèse. Et Sonia, du coup, tu es sportive.
Et tu es asthmatique de naissance. Est-ce que asthmatique et sportive d'endurance, c'est compatible? Alors la réponse, évidemment, c'est oui, sinon on n'en discuterait pas. Mais je pense que ton parcours, on va plutôt vraiment parler du tien, pas du mien, il est éclairant là-dessus et ça peut être inspirant pour beaucoup. Alors dis-nous un petit peu comment c'est compatible et comment toi, ça a pu éventuellement t'aider, la pratique du sport par rapport à cette maladie.
C'est vrai que oui, voilà, comme tu disais tout à l'heure, donc asthmatique de naissance, donc gros traitement de fond, plusieurs hospitalisations étant plus petite jusqu'à mes 16-18 ans, avec voilà, des semaines passées sous oxygène, respiration, enfin voilà. Et puis voilà, j'en ai eu marre de prendre tout ça, d'arrêter de devoir s'écouter en permanence. Et puis donc voilà, la première fois là où je suis retournée courir, au bout des 2 3 minutes, ça c'était déjà la première crise d'asthme. Donc là je me suis dit, c'est bon, je vais jamais pouvoir courir, passe à autre chose, c'est pas possible. Et puis finalement, je suis un peu têtue, un peu tenace, donc j'y suis retournée. Et puis au fur et à mesure, et voilà, j'ai appris justement à gérer les crises. Mais en fait, avant les crises, j'ai surtout appris à mieux respirer, à trouver un certain calme en fait en moi, à savoir s'écouter. En fait, c'est surtout de l'écoute de son corps. Et puis voilà, apprendre à respirer calmement. Et puis justement, quand on sent la crise venir, c'est se dire que, enfin, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il suffit de se calmer et tout de suite ça ira mieux. Et comme ça, en fait, au fur et à mesure, j'ai allongé les distances et en prenant forcément de plus en plus de plaisir. Et puis, tout à l'heure, voilà, on parlait un peu de mental ou sur du longue distance. C'est penser, voilà, dans les moments durs, c'est penser un peu d'où on vient. Et puis parfois, peut-être se remémorer certaines moqueries, mine de rien, des enfants quand on est à l'école. Voilà, des choses comme ça, en fait, prendre ça pour une force qui nous permet d'avancer un peu plus loin encore et pouvoir dire, voilà, c'était bien beau de se moquer, mais aujourd'hui, j'en suis là, j'ai réussi à faire ça, et finalement, ça motive beaucoup. Donc, ça, ouais.
Ouais, c'est une source de motivation comme une autre et qui peut se comprendre. Et chacun est différent par rapport à tout ça. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est que tu aies trouvé cette force mentale là-dedans, mais aussi surtout que tu aies appris à te connaître. Parce que l'asthme, bien sûr, dans certains cas, pardon, c'est très grave à des degrés divers. Hein. C'est pour ça que je rigolais, mais c'est pas du tout moqueur quand tu me parlais de l'hôpital et des choses comme ça. J'ai pas fait des séjours, des semaines entières, mais j'ai fait quelques allers-retours aussi. Et derrière, justement, ça permet aussi de relativiser les choses. Et si je peux faire passer un message aux gens, s'il y a un aval médical et d'un bon médecin, asthme ou pas asthme, mais là, on va parler de ça, c'est aussi aux gens de se bouger et de se prendre en main, en fait, pour être maître de leur propre corps.
Oui, complètement. Et puis c'est de tester un petit à petit, quoi. Le but, c'est pas y aller comme un bourrin et voilà. Mais c'est tester, c'est découvrir. Et puis finalement, en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que ça devient même un véritable outil de développement personnel, en fait, d'introspection. T'en arrives justement presque à des phases de méditation. Enfin, vraiment, ouais, ça m'a pas mal transformé sur beaucoup de points. D'être têtu au début et puis d'y retourner, quoi.
Et est-ce que tu sens que ton activité physique t'aide dans ta maladie, dans un premier temps, et est-ce que ta maladie tu penses qu'elle te limite dans certains points de ta pratique sportive, par exemple?
Oh, je pense que non, à l'inverse, justement, la course m'a permis de. Je fais presque plus de crise, en fait. Je prends plus de médicaments, je prends plus rien, j'ai plus de traitement. Si je prends de la Ventoline, c'est une fois tous les 2 ans et encore. Et puis au cas où, je continue quand même des fois à avoir des petites crises après un effort, tout ce qui est séance de fractionner, des choses comme ça, je prends un peu plus cher. Mais en fait, je patiente après la séance, voilà, quand je sens que je suis un peu plus poussive, et ben ouais, je prends mon mal en patience, j'attends que ça revienne à la normale et puis ça va comme ça, quoi. Donc non, ça m'a quand même. Je pense que voilà, j'ai vraiment développé. En fait, j'ai développé mes capacités respiratoires, clairement, grâce à la course. Et puis même en termes d'allergie, en fait, j'avais beaucoup plus d'allergies auparavant. Maintenant, en fait, j'en ai toujours, mais je suis moins réactive, en fait. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment la course comme médicament, en fait.
Non, mais c'est super intéressant. Alors moi, j'ai pas résolu le problème des allergies, parce que les chats, les chevaux. Et du coup, j'ai pas résolu le
Ouais.
problème des moqueries de ma copine et de mes amis, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins réussi à gérer quand ça se passe pas bien. Et par exemple, est-ce que oui, tu penses que du coup, ça te limite même pas du tout dans ta pratique, tu vois? Tu vas dire que tu dis, ben, dans le fractionné, effectivement, des fois, t'hyperventiles, donc derrière, ça peut provoquer l'asthme. Et certains diraient malheureuse, ben, peut-être l'allergologue, je ne sais plus son nom, qui avait dit ça à mes parents quand j'étais petit, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et je ne dirais pas aux gens qui font l'asthme, lancez-vous dans un ultra comme Sonia demain, mais par contre, une activité physique, ça va quand même beaucoup, beaucoup contribuer à guérir la maladie, je ne sais pas, mais en tout cas, à changer la manière dont on aborde les choses.
Ouais, puis enfin en tout cas pour ma part, ça a été vraiment de la diminuer, enfin ouais,
Ouais, en
presque de
plus.
la supprimer, mais enfin mais après voilà, je suis pas une grande rapide, enfin j'irai pas faire du demi-mètre. Alors
Ouais.
est-ce que c'est dû à l'asthme ou c'est juste dû à moi, bon,
À toi,
enfin mes
ouais.
capacités physiques initiales, ça je saurais pas dire quoi. À quoi est-ce que c'est dû en particulier? Voilà, c'est mon profil peut-être aussi qui fait que voilà, je suis plus orientée vers l'endurance que vers du 10, 20 km à être rapide, quoi.
Oui, et t'as aussi
Ouais,
peut-être appris un peu plus que les autres la patience au fil du temps par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, on a oublié quelque chose de central, et je vais te demander de le définir rapidement. En fait, quand on parle d'asthme, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, sans rentrer dans les considérations très pointues ou trop scientifiques, mais comment tu peux expliquer aux gens simplement ce que c'est l'asthme et les symptômes qu'il y a quand une crise se produit?
Eh ben, en gros, en
Oui,
très
en gros.
schématique, en termes de sensations, en fait, c'est quand on va être. En général, moi, ça ne me fait pas pendant l'effort, mais à la fin d'un effort, ou par exemple, quand on rigole entre amis, si je rigole trop, par exemple, eh ben, on va avoir la sensation que nos poumons se resserrent et qu'on a moins la capacité de respirer, en fait. Au lieu de pouvoir faire une bonne inspiration, on arrive à faire que 30% de l'inspiration classique. Et donc en fait, on peut se sentir très rapidement oppressé. Et en fait, c'est un stress qui va augmenter. Et en fait, c'est ce stress-là qui, selon moi, en tout cas, génère la mauvaise crise, on va dire. Voilà, c'est vraiment en termes de sensations, hein, ce que j'exprime, mais je trouve que ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et souvent, en fait, on a des bronches et des bronchioles. Et souvent, le problème vient aussi des bronchioles qui sont pas assez fortes, en guillemets, pour respirer normalement. Donc, ça arrive aussi par là. Et c'est pour ça qu'au-delà de cette sensation d'oppression, on siffle aussi.
Oui.
On appelle ça siffler. Enfin, je ne sais pas s'il y a que les asthmatiques qui disent ça, mais on appelle ça siffler. Et alors nous, on va être mal placés pour en parler parce qu'on est aussi asthmatique, mais on est aussi bien placés pour faire la différence. Je rassure les gens, si vous faites une séance à haute intensité, il fait un peu froid, si vous hyperventilez, vous sifflez un peu, ça ne veut pas forcément dire que c'est de l'asthme. Ça veut juste dire que vous êtes ramené les poumons et ça arrive et pas de panique à avoir derrière.
Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est que c'est normal d'être justement fatigué et cuit après une séance aussi d'intensité. Ou rien que justement, ouais, quand il fait froid, c'est vrai que par exemple, l'hiver, ou même s'il y a du vent de face, par exemple, bah, je sens, hein, effectivement que ça me prend tout de suite les poumons et que bah, c'est pas très agréable, quoi.
C'est pas
Mais bon.
agréable, mais c'est pas une vraie crise comme tu as pu connaître aussi. Ok. Et
Ouais, c'est ça.
comment tu, en ce moment, par exemple, comment tu. Parce qu'il y a deux choses qui sont intéressantes chez toi, enfin, il y en a sûrement plus que deux, mais en tout cas dans le podcast, c'est cette progression que tu as eue par rapport à la maladie, mais cette progression qui touchera peut-être plus de monde en partant de. C'est pas péjoratif, mais de zéro, hein, à ton adolescence,
Bah,
à
c'est ça.
arriver à l'ultra trail. Et par exemple, si tu résumais un peu on a compris un petit peu le début où tu y allais un peu de manière épisodique, etc. Mais justement, maintenant que tu es un peu plus assidu, enfin, très assidu, je pense, comment tu t'entraînes un petit peu en ce moment?
Et ben en fait, on va dire que la période hivernale, c'est plus une période de renforcement musculaire, PPG.
Ouais.
Un peu d'endurance, et puis bah maintenant qu'on est à la montagne, ce sera plutôt du skating.
Quelle bonne idée.
Quelle bonne
Pas du
idée.
skieur, c'est pour ça. Mais oui,
Bah
oui.
oui.
Ouais.
Non, on essaye de s'y mettre petit à petit, on découvre. Et donc pour l'hiver, donc pas d'intensité autre que voilà que le renfort du cardio. Mais voilà, en termes de course à pied, c'est vraiment, ce sera 1 heure de course à pied tranquille. Et puis une fois passé l'hiver, donc vers février, on va commencer à travailler un peu plus le moteur. Donc rajouter un peu plus de séances d'intensité. Donc ça à partir de février. Et puis moi bon, en général, les premières courses, elles arrivent à partir d'avril, mai.
Ah,
Où
t'attaques tôt
là, on
aussi,
va.
alors pas sur des
Ouais.
ultras forcément, mais sur du plus court, j'imagine.
Ouais, bah là, par exemple,
Non?
fin avril, j'ai fait un 100 bornes.
Ah,
Donc,
ok. C'est déjà long.
ouais.
C'est moins long que 600, moins long que 200, tu me diras.
Oui, c'est ça. Et puis c'est pas
Ouais.
l'objectif principal, on va dire, de l'année, en fait. C'est plus des courses préparatoires. Et puis, donc après, voilà, pendant la saison pleine, on va avoir les courses. Donc entre deux, on va faire un peu de spécifique. Et puis en novembre, et ben pareil, enfin voilà, des courses des dossards jusqu'en septembre, octobre. Et puis
Ouais.
novembre, on va faire 2 semaines de pause complète. Donc on va
OK.
rien faire. Et puis en fait, on va utiliser ces 2 semaines-là pour préparer en fait la saison à venir, définir des objectifs
Ouais.
pour pouvoir ensuite repartir pour un cycle.
Ouais, c'est un mode projet permanent, quoi, finalement.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ok, je vois. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis. Toi, tu vas courir ton ultra doucement, je me comprends, mais
Ouais.
oui, doucement dans l'absolu, mais longtemps, longtemps, longtemps vite en étant doucement, on va la dire comme ça. Et en quoi, parce que de prime abord, pour certaines personnes, ça paraît pas évident que de faire du fractionné ou de la haute intensité, ça puisse te servir. Et en quoi, toi, ça t'aide?
À travailler l'intensité.
Ouais, en quoi tes intensités t'aident dans ton ultra trail, justement?
Et ben justement, l'objectif, c'est de repousser, on va dire la, on va dire, comment dire? Il faut repousser la vitesse à laquelle j'ai une aisance respiratoire. Et le but, donc, c'est de repousser cette vitesse-là. Et en travaillant l'intensité, ça permet justement de repousser ce qu'on va appeler le seuil, le SV1, donc la première fourchette. Donc c'est de repousser cette limite-là. Et ça, bah, mine de rien, c'est le fractionné plus le travail en endurance qui permet de décaler ces limites-là, quoi.
Ouais, bien sûr, moi j'aime souvent parler d'élargir la zone de confort. Enfin, j'aime bien bien ce terme-là parce que enfin, pour faire très très schématique, si votre allure de footing est à 10 km heure et que dans vos fractionnés vous êtes à 15. Aussi à la fois dans la physio mais dans la tête, quand vous allez retourner à 10, ça va être aussi plus facile. Et derrière, on repousse entre guillemets ses limites sans parler uniquement de la physio. On élargit un peu et on repousse un petit peu ce seuil en passant par des séances de ce type-là. Et c'est pour ça que de prime abord, il y en a qui disent que ça ne servira à rien. Mais je n'étais pas en train de te dire que ça ne servait à rien, bien au contraire. Hein, j'en programme aussi, j'en fais aussi pour moi-même. Et puis, l'autre question qu'il y a, en fait, c'est impossible de t'entraîner sur une sortie longue qu'elle fasse la durée de ton ultra trail, même si tu as des courses préparatoires. Et par exemple, comment dans ton entraînement, tes sorties longues ou ton organisation d'entraînement te permet d'être prête le jour de ton ultra, à ce que ça se passe bien?
Ben en fait, c'est un peu l'accumulation des séances. En fait, chaque
Ouais.
séance a une contrainte. Et l'accumulation de ces contraintes-là, finalement, ça fait que le jour J, tu finis par être prêt. C'est sûr que la traversée de 620 km, les 2 semaines avant, j'ai pas fait 600 km. Enfin, sinon, on s'en sort pas. Mais en fait, le but aussi, enfin voilà, quand tu fais tes séances, c'est parfois tu travailles sur de la fatigue. Et en
Ouais.
fait, alors que quand tu vas partir quand tu vas partir donc pour ta course, tu n'auras pas cette pré-fatigue-là réalisée pendant la semaine. Donc en fait, c'est travailler avec une certaine charge de travail et surtout faire en sorte que tout ça soit progressif en fait. J'ai pas fait 600 bornes du jour au lendemain, même si bon, peut-être pas l'exemple en passant de 20 bornes à 100 bornes, mais voilà, c'est d'essayer de travailler un peu comme ça, quoi.
Ouais, et cette notion de pré-fatigue, c'est que en fait tu vas le dimanche, en fait tu vas quand tu sors de ta semaine, tu vas produire un peu la même vitesse de déplacement, si je parle d'une sortie longue, qu'à ta compétition, pour faire très simple, hein. Mais vu que tu vas la faire dans des conditions un peu fatiguées, tu vas t'entraîner à produire cette allure dans la fatigue, et c'est ce qui va aussi pouvoir te servir sur un ultra où au début, évidemment, tu as beaucoup de marge devant toi, et plus ça va avancer dans les kilomètres, plus ta marge elle va réduire parce que ta fatigue va augmenter. Si
Ouais.
je suis ton
En fait,
raisonnement.
ouais, c'est ça. En fait, le but, c'est d'enchaîner les, enfin, c'est d'enchaîner, c'est de faire un certain, c'est de faire les séances pour agresser en fait le corps, les muscles, hein, la machine humaine, et ensuite savoir aussi lui laisser des phases, des temps d'adaptation, pour ensuite retourner au travail, quoi. Ouais.
Ouais, malheureuse, tu fais des fractionnés, tu agresses ton corps. Il y a certains experts en faisant de l'asthme, je pense qu'il y a certains experts qui se retourneraient sur leur chaise en entendant ça. Mais je pense que tu as raison parce que ça va dans le bon sens.
Oui,
Et
après, si on lit tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche, c'est sûr qu'on fait plus grand-chose, je pense.
alors, je ne suis pas en train de dire que tous les médecins et les allergologues sont mauvais parce que j'ai eu
Non,
la
non, non.
chance de tomber sur le docteur Perrin à Montpellier, qui était une femme formidable, du coup, qui m'a bien aidé. Je pense que ça a été aussi ton cas. Mais souvent aussi, j'ai déjà entendu des gens me dire, mais là, ça n'existe pas, c'est dans la tête. J'ai déjà entendu plein de choses comme ça. Et souvent, les gens ont un avis, mais ne connaissent pas comment ça fonctionne parce qu'ils ne sont pas dans le corps des gens. Et ils se basent beaucoup sur des études aussi. Mais à un moment, s'adapter, c'est ce qui se passe aussi sur le terrain et chacun fait au mieux. Et par contre, je répète encore une fois, chacun doit se prendre en main et c'est pas le moment de se plaindre, c'est juste le moment d'agir si les gens veulent s'améliorer en fait. Et je parle pas de s'améliorer en termes de performance, je parle en termes de santé, en termes de plein de choses comme ça.
Ouais, c'est sûr qu'il y a la théorie, puis après il y a la pratique, justement. Après, encore une fois, bien sûr, ça c'est propre à chacun, et bon, chacun a ses
Oui,
capacités de développement et de volonté, je pense aussi.
Oui, et de volonté aussi. Et la volonté vient aussi en prenant du plaisir dans la pratique petit à petit, comme tu l'as fait aussi, parce qu'au début, c'était dur, après tu te rends compte que c'est bien, etc. Et pour gérer son asthme, on va l'appeler comme ça, on n'est pas obligé de passer par le trail, l'ultra trail ou l'endurance. Mais par contre, une pratique sportive, ça va quand même faire du bien,
Ouais.
de manière générale. Et justement, tu utilises quand même tes exploits sportifs, on peut parler d'exploits sur le coup, pour sensibiliser les gens pardon, à la cause des enfants hospitalisés, mais aussi pour récolter des dons. Est-ce que tu peux nous dire aux gens un petit peu tes projets du moment par rapport à tout ça?
Ouais. Ouais, effectivement, tu parles de dons parce que bah voilà, quand j'ai fait la traversée du GR l'an dernier, pour expliquer un peu, en fait, j'avais mis en place une cagnotte sur internet pour les enfants hospitalisés de l'hôpital où j'ai passé beaucoup de temps du coup quand j'étais petite. Et en fait, pendant la semaine de la traversée, cette cagnotte a bien grimpé. Et effectivement, c'est encore une fois, c'était un vecteur aussi de motivation. Après, voilà, donc ça, c'était l'an dernier. J'ai utilisé la cagnotte pour acheter plein de choses pour les enfants, pour le personnel hospitalier du service pédiatrie. Donc ça, c'est vraiment un très bon moment. Après cette année, donc ça, c'était en off l'an dernier. Et cette année, donc c'est un peu plus de dossard, en fait, un peu plus de courses, peut-être un peu plus égoïste, mais ça fait partie aussi de ce que j'ai envie de faire. Voilà, après j'ai plusieurs idées de défis aussi sur papier où je pense que je présenterai ça un peu au moment opportun, mais là voilà, d'ici la fin d'année, il y a surtout deux autres ultras qui sont prévus. Donc ce sera le course donc Val d'Aran et puis en Suisse en septembre. Après voilà, je réfléchis un peu justement parce que cette traversée du GR l'an dernier ne m'avait vraiment vraiment plu. Donc je réfléchis voilà comment développer ça. Peut-être refaire d'autres traversées sur d'autres GR, peut-être voilà dans d'autres départements. Donc voilà, la Normandie, ça avait comme avantage que je connaissais pas mal de monde. Donc j'étais accompagnée durant toute la semaine. Donc mais voilà, l'idée de faire d'autres GR. Peut-être là où il y a d'autres athlètes un peu, on va dire, reconnus pour pouvoir aider à récolter justement des dons pour les hôpitaux locaux peut-être. Enfin, voilà, ça, il n'y a rien de fait, mais c'est un peu dans mon idée à très long terme, quoi.
D'accord, ok.
Voilà.
De toute façon, je mettrai le lien dans la description vers ton compte Instagram, vers ta page Linktree et tout. Et par contre, t'as pas cité l'hôpital pour lequel tu avais récolté les dons, parce que je pense que c'est un hôpital où tu as une relation particulière avec et qui doit le mériter, à mon avis.
Ouais, c'était bah, le centre hospitalier public du Cotentin,
Ouais.
donc à Cherbourg, en Normandie.
D'accord. À Cherbourg, sur ton lieu de naissance.
C'est ça.
Là où tu as grandi. D'accord, ok.
Ouais.
Ouais, mais après, c'est vrai que c'est des chouettes projets par rapport à tout ça. Et je les partagerai dans la description. Ça permet aux gens un peu de s'intéresser à ça. Et je pense que si des gens sont asthmatiques ou sont dans ce cas de figure et veulent te contacter, je pense qu'ils peuvent le faire sans souci.
Oui, bien sûr.
Ouais,
Avec
bien
plaisir, au
sûr.
contraire. Ouais.
Ouais,
Ouais.
ouais. Sur Instagram, je suppose, je mettrai le lien aussi.
Ouais, très bien, ouais.
Ouais, ok.
Oui, c'est vrai
Bon.
que voilà, si c'est vrai que la traversée, ça avait soulevé aussi pas mal de questionnements. Enfin, des gens qui se disaient, ah bah j'ai jamais osé poser de questions sur tel, voilà, j'ai mon enfant qui est hospitalisé. Enfin, et du coup, j'avais trouvé ça super intéressant, en fait. Il y avait eu pas mal d'échanges qu'on avait découlés. Et en fait, j'ai aussi. Il y a eu un film, un court-métrage de
Ouais.
réalisé durant cette traversée. Donc là, donc elle est passée dans deux trois cinémas, bah pareil en Normandie et puis là en
En
Haute-Savoie.
Haute-Savoie, oui.
Et puis d'ici la fin d'année, ce sera diffusé sur les réseaux. Je pense que voilà.
Ah, mais c'est
Là, on
chouette,
aimerait bien essayer de promouvoir en tout cas ce petit court-métrage. Voilà pour diffuser au plus grand nombre et justement s'il y en a qui peuvent. Trouver un élément de motivation, peut-être, à travers ça, bon, bah, ce serait réussi.
Ouais, et pour les enfants encore plus, parce que alors je dis pas que pour les adultes c'est plus facile, mais c'est souvent aussi plus injuste pour les enfants et enfin, ça reste toujours injuste, mais je me comprends dans ce que je veux dire. Et aussi là-dedans, peut-être que si en t'écoutant, en voyant tes projets, bah, peut-être que sur, je sais pas combien il y a de milliers d'enfants asthmatiques en France, ou d'adultes asthmatiques d'ailleurs, et bien sur 10 000, bon, il y en a plus que ça, je pense, je sais pas combien on est, mais bah, même sur 10 000, s'il y en a deux ou trois qui se mettent à bouger et que ça les aide, c'est tout gagné aussi par rapport à ça.
C'est ça,
Et
ouais.
s'il y en a 9 999, ben,
Ah
c'est
bah
encore
c'est
mieux par.
banco.
C'est jackpot, hein. Bah, on demande que ça, et souvent on parle de performance, parle de plein de choses comme ça, mais il faut pas oublier que le sport, ça permet aussi aux gens de se reconnecter avec eux-mêmes, d'être plus en relation avec leur propre corps, et notamment quand il y a des pathologies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein.
Oui, il faut que chacun y trouve son compte, en fait. On n'est pas, voilà, justement, obligé d'aller faire 200 bornes demain pour bien se sentir. Juste déjà, parfois, aller faire un tour, aller marcher, aller trottiner un peu, et c'est déjà très bien, en fait. Ouais.
Et justement, de manière plus générale, quels conseils tu pourrais donner aux gens pour la pratique de leur sport?
C'est de faire sans réfléchir, je pense. C'est y aller, c'est tomber. C'est savoir tomber, se relever, et puis bah, en fait ne pas forcément avoir peur de se faire mal. Enfin, ça arrive de rater, parce que je pense qu'en France, on voit l'échec comme un peu la fin du monde. Mais en fait, c'est là où on apprend beaucoup, enfin, selon moi. C'est à force d'expérience aussi qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis voilà, savoir aussi. Comment dire, se débrouiller tout seul au début, enfin sortir un peu des sentiers battus, s'écouter dans le sens, voilà, j'ai envie de faire ça, mais on m'a dit qu'il fallait pas. Enfin, en fait, on s'en fiche de, on a dit que fais ce que t'as envie de faire et tu verras, tu feras ta propre expérience. Et par la suite, une fois que tu te connaîtras un peu mieux, peut-être à ce moment-là, t'entourer de, bah, savoir s'entourer aussi des personnes compétentes. Je pense, voilà, si tu as envie de te faire accompagner ou des choses comme ça, c'est important aussi. Ouais.
Ouais, c'est juste aussi, mais comme tu dis aussi, chaque chose en son temps. Et quand on parle de se faire accompagner, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin et envie d'être accompagnées dès le début parce qu'ils n'y connaissent rien ou ils ont l'impression de ne pas y connaître et ça fait sens. Certaines personnes vont vouloir expérimenter les choses elles-mêmes dès le début et ça fait sens aussi. Et d'ailleurs, on est tous pareils, hein. Il y a certains domaines où on va vouloir tout apprendre tout seul de manière autodidacte, et d'autres domaines où en fait on aura besoin d'être aidé dès le début, parce que pour plein 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 de raisons différentes. Et il y a autant de raisons de se faire coacher que de ne pas se faire coacher, par exemple. Et l'essentiel reste quand même aussi, et c'est important ce que tu as dit, d'y aller sans réfléchir. Alors, ça ne veut pas dire y aller sans réfléchir, c'est pas partir son premier footing depuis 10 ans, aller à fond, se claquer et plus rien faire pendant 6 mois. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais
Oui, bien sûr.
sur le fond, oui, y aller simplement peut-être pour, je pense aussi pour le plaisir de l'activité en elle-même, en fait, sans chercher plus loin.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est trouver du plaisir au moment où on a envie. Enfin, et puis des fois, je trouve aussi, là pour le coup, c'est pratique de leur sport de manière générale, mais c'est aussi un moyen, je trouve, de se reconnecter à soi-même, en fait. C'est de s'éloigner un peu du quotidien, des questionnements du travail, de la famille, tout ça, et prendre du temps pour soi, en fait, simplement. Je pense qu'on ne le fait pas assez, mais prendre du temps pour soi, ouais.
Je pense qu'on en aura de plus en plus besoin, à mon avis.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais on commence à le recomprendre, je pense. À mon avis,
Ouais.
ça revient. Ça revient.
Ouais. Ok, Sonia. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir sur ça, d'aborder ce sujet-là et même le sujet de ta progression au sans charge. En tout cas, je pense que moi, j'ai pris du plaisir. J'espère que toi aussi, et j'espère aussi que les gens en prendront.
Plaisir partagé également. Ouais.
Ouais.
Merci en tout cas pour l'invitation et ces échanges de quelques minutes. Ouais. C'était intéressant.
Ok, eh bien allez, au revoir à tout le monde.
Merci, au revoir.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.